Voici André Dumbu, maille au casseur oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci d'être de nôtre. Dans un rapport publié mardi dernier à Kinshasa sur la justice congolaise, deux ONG internationales, OCISA et APRIMAP, évoquent un certain nombre de facteurs qui empêchent l'effectivité de l'état de droit en RDC. D'autre part, pour élever ces défis dans sa réflexion sur la problématique de la justice congolaise, un observateur de la justice propose les renforcements de l'autonomie du pouvoir judiciaire. Comment commentez-vous cette actualité? Nous vous invitons, chers auditeurs, à participer à ces débats en composant les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Nadine Poula, Pierrot et Lamegi et Jean-Claude Mokondo, Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission et Gilles Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Ce rapport passe en revue un certain nombre de facteurs qui empêchent l'effectivité de l'état de droit en RDC. Entre autres, comment arriver à consolider les cadres juridiques de l'état de droit et comment éviter les révisions intempestives de la Constitution, faire cesser les violations répétitives de la loi par le gouvernement et corriger les faiblesses du contrôle judiciaire de la légalité des actes réglementaires. Vous êtes en ligne, Kassamba. Vous êtes à Bounia, Richard à Kinshasa et Clément Mbujimai. Vous allez également contribuer à cette émission et nous faire quelques recommandations aussi pour effectivement rendre effectif donc la primauté de l'état de droit. Kassamba, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Bon, moi, ce que je peux commenter d'abord, la faute n'est pas tellement au magistrat, c'est l'état congolais qui les a clochardisés. Comment voulez-vous quelqu'un qui rend un service aussi sensible que la justice qu'on ne puisse pas le payer correctement? Et moi, je pense que tout cela a été fait.
Oui, Kassamba, qu'est-ce
tout
que vous
avez cela a été
oui.
un dessein.
Oui, Kassamba.
Puisque la plupart de ceux qui détournent aujourd'hui sont des hommes politiques. Alors, comme ils ont déjà clochardisé la justice, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et quand ils le veulent.
Alors, qu'est-ce que vous vous proposez? Qu'est-ce que vous vous proposez
moi,
comme
pense que oui. Les magistrats doivent faire dans le cadre de Sinamag, comme font les médecins. Ils doivent faire pression, puisque notre État, l'État congolais, si on ne fait pas de pression, je crois que tout va bien.
Oui, parce que vous parlez des salaires des magistrats, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, un magistrat touche combien à peu près?
Non, à un certain moment, on avait dit que les magistrats allaient toucher 1 600 $. Je ne sais pas si c'est les magistrats qui me suivent à ce moment, ont ce salaire-là.
Oui, mais parce qu'à un certain moment, vous l'avez dit, il y a eu des négociations entre le Sinamag et les autorités. Ils se sont mis d'accord sur certains points et aujourd'hui, le salaire des magistrats tourne autour de 800 $ si je ne me trompe pas. Donc, je crois que c'est un peu ça. Et je crois que quand on va en négociation, c'est vrai qu'on n'a pas tout au même moment. C'est question de continuer à garder un dialogue permanent jusqu'à arriver quand même à entrer dans ce droit. Merci beaucoup, Kassamba, d'avoir appelé pour participer à cette émission. Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à tous les auditeurs. Félicitations à ceux qui ont produit ce rapport qui est en train de nous pousser à parler. Voici ma modeste contribution. Je crois que le système judiciaire n'a pas besoin d'un autre type de renforcement pour son fonctionnement. Il n'a pas besoin aussi de la qualité de son rendement si on améliore les salaires. La justice congolaise a besoin de 5 petites choses que je vais énumérer. Mmh. Il faut que la vérité soit appelée vérité. Il faut que le mal soit appelé mal. Il faut aussi que la justice, la véritable, cède de la place à la justice de parodie. Quatrièmement, il ne faut pas que la justice soit la justice des forts pour écraser les faibles. Et enfin, il ne faut pas aussi que les avocats congolais soient les avocats du diable. Pourquoi je veux terminer par les avocats? J'ai vu les gens portant la toge noire, se disant des avocats, vouloir transformer le mal en bien. Ça aussi, c'est dangereux pour une justice. Même si les magistrats sont des personnes aujourd'hui qualifiées de truffées, de mauvaise foi, des personnes qui monnaient le droit et disent le droit contre l'argent, mais l'avocat qui est le peuple, qui défend le peuple contre le mal et pour le bien, ne peut pas être quelqu'un qui peut transformer le mal en bien. C'est ça encore le problème. Merci.
Voilà, merci beaucoup Richard. Nous retenons de votre intervention que si nous voulons réellement rendre effective la primauté de l'état de droit, il faut que la justice des parodies soit remplacée par la vérité et la justice des forts pour écraser les faibles, il faut que cela cesse et que les avocats qui se retrouvent dans le rang des défenseurs du peuple puissent réellement faire leur travail. Merci beaucoup Richard d'avoir appelé. Et Clément, vous êtes en Bougemaï. Comment commentez-vous cette actualité, ces rapports publiés par OCISA et Aprimap?
Oui, merci beaucoup JR. Je suis en train de vous remercier pour ce sujet. Et puis ma contribution est qu'il faudrait non seulement que les magistrats soient bien payés, mais ce qui est vrai aussi est que même s'ils peuvent être bien payés aujourd'hui, mais si ces virus de corruption est en train de décimer leur conscience, c'est-à-dire que ça va toujours continuer comme ça. Mais ce que moi je voudrais vous demander, à ceux-là qui ont publié ce rapport, c'est qu'il y ait une indépendance judiciaire pour qu'il y ait consolidation d'un état de droit. Pourquoi une indépendance judiciaire? Nous avons trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Vous verrez que de ces deux premiers pouvoirs, ces deux pouvoirs sont indépendants. Mais il n'y a que le troisième pouvoir qui dépend de deux autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas indépendants, quelque part. Mais sur le plan théorique, nous disons que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais alors que nous dépendons d'une manière ou d'une autre de l'exécutif ou du législatif, alors comment pourrons-nous être indépendants? Parce que nous dépendons d'eux. Alors il faudrait qu'il y ait cette transparence dans la gestion judiciaire. Cette indépendance, c'est-à-dire que le procureur général est à même de gérer correctement du sommet jusqu'à la racine. Alors, à ce moment-là, il y aura la consolidation d'un état de droit. Donc, aller au paiement, aller à ça et ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de superficiel, mais moi je voudrais à ce que l'on se base beaucoup plus sur l'indépendance judiciaire. Que le magistrat se sente libre de pouvoir initier une action, le ministère public capable de pouvoir descendre sur terrain, le juge capable de se prononcer sans qu'il y ait une main noire derrière lui pour le contraindre, c'est ça. Voilà un peu ma petite contribution sur l'indépendance judiciaire qui peut faire en sorte que l'état de droit soit consolidé.
Merci beaucoup Clément, si je comprends bien, là vous souhaiterez que le magistrat puisse être vraiment politique, parce que à chaque fois qu'il y a cette interférence de l'exécutif, ça empêche à ces derniers de faire correctement leur travail. Merci beaucoup Clément Mbujimayi. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour mon ami, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Alors vous avez suivi vos prédécesseurs, Kassamba, qui au fait a demandé disons au syndicat national de magistrats de pouvoir garder un dialogue permanent avec l'exécutif pour chercher à améliorer pour chercher des voies et moyens pour améliorer les conditions de leur travail. Et Richard qui a insisté pour dire que la justice qui a toujours fonctionné à plusieurs vitesses puisse réellement changer, question de pouvoir rendre plus effective la primauté de l'état de droit. Et Clément Mbujimayi qui vient d'évoquer également l'autonomie de l'appareil judiciaire qui sera aussi une des solutions. Vous avez la parole Ismaël.
Oui, vraiment je vois qu'il peut y avoir premièrement l'équilibre. Qu'est-ce que signifie l'équilibre? Pour le magistrat et pour tout un fonctionnaire de l'état, nous vivons dans un pays où chacun a ses propres droits et ses devoirs. L'État a le devoir aussi de rendre la justice un peu meilleure, le plus que jamais. Parce que tout ce que nous pouvons concourir, soit la justice, c'est l'État qui sera vraiment en charge. Sinon, si l'État pourrait voir faire l'État de chaque chose, là pourrait aussi avoir l'ampleur. Et aussi, les magistrats ne devaient pas s'appuyer seulement que nous ne sommes pas payés et le travail ne doit tourner qu'à mal. Parce que tout le garde du monde aujourd'hui laisse donner la main, c'est-à-dire tout autre rôle. C'est-à-dire, si on n'a pas payé, on ne peut pas servir au jeu d'État. Quand je parle de l'équilibre, c'est pas que chacun devait faire l'état des choses pour savoir à notre état qu'on paye à quelle vitesse et tel ou tel service reçoit combien. À cela, on devait voir, moi je suis payé $500, là je viens au taxe, et pourtant ce sont des actions actuelles. La deuxième des choses, ce sont des petites notions. C'est ça que nous manquons en RDC. On sait qu'on est éduqué, on est professeur ordinaire, on est tel en droit. Mais à des fois, on manque ce dont nous pouvons faire. Il y a aussi l'État, soit les ONG pour les droits de l'homme. Tout cela court derrière quelque chose. C'est ce qui rend le pays vraiment malade. Avant mon départ, nous avons parlé aussi des droits, accorder la liberté à quelqu'un. Tout cela marche à ceux qui ont l'argent et la justice. Et ça n'est pas pour aussi la justice en RDC, c'est-à-dire il faut faire l'équilibre de toutes choses. On est magistrat, on s'acquitte tellement de sa responsabilité. Le salaire, c'est quelque chose qui peut venir après. L'amour du pays, est-ce que nous, personnellement, en RDC, avons-nous l'amour? Voyez un peu la Kinshasa. Alors, la deuxième république et la première république, il n'y avait pas les Kuruna. Quand il y a la résistance, soit on arrête celui-là aujourd'hui et demain il le relâche. Réellement, est-ce qu'avons-nous vu que nous avons l'amour du pays? Bien que nous recevons quelque chose, si le magistrat reçoit $800, $500, mais lui, un enseignant qui reçoit $50, il est là qui vit, il ne parle pas. Il faut faire l'état des choses, les avancer, puis d'autres choses pourraient venir après. Si nous avons un amour de ce pays, tout est allé.
Le Congo est en train de rouler.
Moi, je vois qu'il y a aussi des avancées dans de certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu la radio Okapi qui diffuse des émissions, même pour conscientiser tel ou tel service. Vraiment, si nous prenons l'équilibre et avoir aussi une petite notion, c'est-à-dire la base que nous avons, ça va aussi nous aider.
Voilà.
Merci
beaucoup, Ismaël. Merci. On va terminer cette première série des auditeurs avec Omar qui est à Kinshasa. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la ville.
Alors, comment commentez-vous la publication de ce rapport de l'Open Society Initiative for Southern Africa, aussi ça, et puis le rapport d'AfriMap? Comment vous commentez ça?
Merci beaucoup, JR. Avant tout, je voudrais réagir par rapport à la réaction de maître, de docteur Richard. C'est vrai qu'il a attaqué les avocats, pas avoir raison, mais il doit aussi retenir que toute personne dans un état de droit a droit à se faire assister par un avocat. Et l'avocat n'a pas seulement le droit ou l'obligation de demander l'abolition de la peine, il peut aussi demander l'atténuation. Donc, il n'a pas attaqué les avocats quand ils ne font que leur travail. Alors, par rapport au rapport, ce rapport me pousse à faire une évaluation de l'article 1er de notre Constitution qui dispose que notre pays est un état de droit. Et je voudrais me référer au doyen Louis Favoreux, qui est un grand juriste français, qui disait que l'état de droit suppose premièrement la primauté du droit dans tout acte social. Deuxièmement, ça suppose la séparation de pouvoirs de l'État. Troisièmement, ça suppose l'élection des gouvernants par la population. Quatrièmement, ça suppose le contrôle juridictionnel des actes posés par les gouvernants. Et enfin, l'État des droits suppose la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. S'il faut faire un bilan aujourd'hui, JR, moi je pense que le bilan paraît mitigé, dans la mesure où nous voyons certaines avancées et aussi des points négatifs à déplorer.
Omar, on va peut-être, si, c'est juste pour vous aider afin de faire vraiment une idée sur ces rapports qui parlent de la procédure pour rendre effective la primauté de l'état des droits. Ils évoquent la consolidation du cadre juridique de l'état des droits, éviter les révisions intempestives de la Constitution, faire cesser les violations répétitives de la loi par le gouvernement et corriger les faiblesses du contrôle judiciaire de la légalité des actes réglementaires et mettre fin aux abus des lois d'amnistie. Voilà, donc il y a dans moins 5 ou 6.
Merci beaucoup, J.R., de m'avoir élucidé. Donc je disais, tout cela se retrouve dans les 4 axes que je viens de citer. S'il faut analyser ces rapports, Parlons de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. Il faudra reconnaître, J.A., qu'il y a quand même des efforts, car pendant la Deuxième République, il n'était pas aisé de passer à la télévision et de critiquer le gouvernement en place. Mais seulement nous déplorons certains comportements des autorités qui font. Par rapport à ce qu'ils ont dit sur le contrôle de la légalité des actes administratifs, là, ça relève du juge lui-même qui doit être indépendant. Et nous remarquons, dans la pratique, souvent l'ingérence politique des gouvernements. Voilà pourquoi aujourd'hui on les arrête sur commande politique. Quelqu'un qui n'a rien fait, on utilise le pouvoir pour faire le mal. Et aussi, nous avons, comme nous l'avons dit, l'élection des gouvernants par les gouvernés. Oui, nous les remarquons aujourd'hui, même s'il y a des abus à corriger. Alors, qu'est-ce que moi je peux proposer, JR, pour qu'il y ait effectivement un état de droit en RDC? Trois mots. La volonté politique de bien faire les choses, la capacité d'organiser les choses, ainsi que les moyens à allouer à la justice. Par rapport à la volonté, pour finir, JR, la volonté de l'avoir revêtu les autorités politiques, je parle là du gouvernement ainsi. Parce que l'article 149 dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et celui exécutif. Ils doivent se garder de s'ingérer dans le domaine qui n'est pas le leur. Et des deux, le magistrat lui-même, il doit savoir que l'indépendance relève d'abord de sa conscience. La loi fondamentale dit que le magistrat n'est soumis au respect de la loi, pas au respect de celui qui l'a nommé. Et deuxièmement, il y a un problème de recrutement JR. Des fois, s'il n'y a pas indépendance, c'est parce qu'il y a ignorance de la loi ou encore il y a incompétence. Parce qu'on ne peut être indépendant que si on connaît la loi. Il y a un problème de recrutement qu'on doit revoir. Ne pas recruter n'importe qui comme magistrat, comme OPJ ou comme avocat. Et enfin, il n'y a pas de vertu sans le minimum du bien-être. Comment voulez-vous qu'il y ait état des droits justice si vous ne payez pas bien ceux qui doivent le faire? Là, je fais allusion aux moyens qu'on doit louer à la justice pour que cela soit bien fait. Et enfin, je voudrais interpeller toute la communauté, même ceux qui ont rédigé les rapports. L'état des droits suppose le respect des lois de la société par tous citoyens de la société. Et si tout le monde prend conscience de cela, je crois qu'on aura fait œuvre utile, on aura vraiment un état des droits nerveux.
Merci beaucoup. Je vous en prie. 081-890-6315 ou encore déposez vos commentaires sur notre page Facebook.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio notre invité, Richard Bondo. Maître Richard Bondo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat conseil à la CPI, au tribunal spécial pour le Liban, voilà. Et puis le président d'avocats sans frontières en RDC. Voilà, vous avez suivi les uns et les autres. Ils ont au fait réfléchi, hein, ils ont fait des commentaires par rapport à ce rapport qui a été publié par OCISA et AfriMap, qui évoque notamment quelques facteurs qui empêchent l'effectivité de la primauté de l'état de droit. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à toutes ces réactions?
Merci beaucoup, JR. Je salue tous vos auditeurs et je remercie les intervenants de toute leur contribution tout à fait pertinente. Tout le monde a raison. Le problème chez nous, c'est d'abord, la société congolaise. Est-ce que le mental qui est entamé depuis plus de 3 décennies, comment peut-il aujourd'hui, malgré ce que dit la Constitution à son article 1er, que la République démocratique du Congo est un état de droit, que les juges ou les magistrats en général soient soumis à l'autorité de la loi. Lorsque l'on sait que le magistrat est nommé par le chef de l'État, qui malheureusement dans notre pays, et ça c'est des gens qui, soi-disant, ont été à l'université, qui le consacrent. Il est élu président de la République, chef de l'État, lui, représente la nation. Mais il y a des gens qui l'appellent autorité morale d'une famille politique. C'est-à-dire, ces gens s'approprient un chef de l'État. Avec cette conséquence que, dans le contentieux électoral par exemple, vous n'êtes pas de la famille politique à laquelle appartient l'autorité morale de la majorité, vous devez perdre le procès, même si vous avez les bulletins avec vous. Tout ça pourquoi ? Parce que c'est le chef de l'État qui se trouve être l'autorité morale de la famille de la majorité présidentielle, qui nomme les magistrats. Et lorsque un membre de cette famille est en procès, il fait chanter le magistrat. D'abord celui du parquet, qui malheureusement avec la modification de la constitution n'est plus indépendant parce que c'est un agent du ministère de la justice. Donc le ministre de la justice a l'autorité sur même le procureur général de la République.
Oui, maître Richard, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, le procureur de la République avait les rangs quand même de Premier ministre, il avait quand même des moyens qui étaient mis à sa disposition pour gérer l'appareil judiciaire époque.
C'est ainsi que vous avez raison.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par manque de faute de moyens, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a difficile à consolider les cadres juridiques de l'état de droit?
Je crois, moi, que lorsque vous voyez le train de vie des responsables du Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire le sommet, ils ont un train de vie qui dépasse celui de l'époque où vous parlez. C'est-à-dire, vous voyez leur salaire et leur train de vie, vous vous dites, mais ces gens sont vivent, disons, ils ont un train de vie de loin supérieur à celui que menaient ceux qui étaient sous la Deuxième République. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, être là où ils sont, même si l'on dit que la magistrature est apolitique, vous les trouverez siégés dans les instances de la majorité présidentielle.
Voilà,
vous voyez que l'indépendance,
parce qu'on a,
tant recherchée par les constituants, l'indépendance est galvaudée, est dénaturée,
oui,
est confisquée par une seule famille politique.
On va évoluer, parce que là, on aimerait bien vraiment être trop scientifique et réfléchir par rapport d'ailleurs à ce rapport. Les rapports parlent de la consolidation des cadres juridiques, éviter les révisions intempestives, et là, on évoque également faire cesser les violations répétitives de la loi par le gouvernement, et corriger les faiblesses du contrôle judiciaire. Alors j'aimerais bien qu'on reste un peu dans les faiblesses.
C'est là que nous sommes.
Voilà.
Nous sommes dans ces faiblesses.
Oui, les faiblesses, parce que elles ne sont pas trop dans la position. Mais de toute façon, quelles sont les faiblesses aujourd'hui qu'on peut relever par rapport à ce rapport?
Les faiblesses qu'on peut relever, c'est ce que le rapport nous dit. Mais ces faiblesses trouvent une cause. La cause, c'est que la magistrature n'est pas distante de la politique.
Donc il faut que la magistrature soit apolitique.
Et le problème, ça c'est la cause, la première, pour moi il n'y a que deux causes. La magistrature, la première donc, la magistrature n'est pas distante de la politique. La deuxième, c'est la personnalité des magistrats. Ils se sont battus depuis la démocratisation pour qu'ils soient indépendants. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque, en face d'eux, il y a JR et un membre de la famille politique de l'autorité morale, pourquoi il tremble? Vous voyez le juge en train de trembler devant un quelconque monsieur parce qu'il est de la famille politique.
Donc si je comprends bien, vous rejoignez les auditeurs qui ont parlé de l'indépendance. Donc,
non, l'indépendance est d'abord au niveau mental. Vous savez,
la liberté pour la vivre, il faut qu'elle vous habite dans votre mental. Mmh. Or, le mental de nos magistrats aujourd'hui, par le fait qu'ils sont nommés par l'exécutif, c'est comme si...
Donc ils dépendent ils sont
ce que nous appelons dans notre jargon la crainte révérentielle. Grâce à son ordonnance, grâce à sa présence autour du chef de l'État, grâce à sa position dans la famille politique à laquelle appartient le chef de l'État, je suis magistrat. Voilà pourquoi, dans certaines cérémonies, vous trouvez le chef de juridiction qui, malgré la présence du ministre dans la salle, le magistrat commence par Son Excellence, Monsieur le Conseiller principal chargé des questions juridiques et judiciaires auprès du chef de l'État. Mais c'est quel magistrat qui peut faire ça?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On va d'abord écouter Arsène de Kikwit pour que nous entrons maintenant dans les recommandations. Arsène, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, Arsène, alors pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Allons concrètement dans les recommandations par rapport à ce rapport. C'est vrai, l'état des lieux est connu, hein, on ne va plus y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrive effectivement à rendre effective donc la primauté de l'état de droit?
Ok, merci beaucoup pour la parole. Je crois que la responsabilité pour trouver une solution se base à deux niveaux. Mmh. Le premier niveau, c'est le niveau de la moralité de la personne humaine. Parce que la justice, quand on parle de la justice, on parle du mot juste. Ce qui est juste, c'est quoi? Donc c'est de là, par l'éducation d'abord, de la personne humaine qui va essayer de manipuler ce qu'on appelle les instruments juridiques. S'il est moralement éduqué, moralement instruit, moralement juste, je crois qu'il n'y aura pas assez trop de problèmes. Mm-hmm. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est qu'au niveau, nous sommes dans un État. Ça veut dire le patriotisme. Il faut savoir éduquer la masse populaire pour qu'ils comprennent que la population qui habite cette nation doit avoir la culture de la nationalité, la culture du civisme. Le civisme et le patriotisme. Alors, de là, nous avons des instruments qui sont là. On a par exemple un ministère, je ne sais pas, bon, on a un ministère de quoi, comment on appelle ça,
de
la nouvelle citoyenneté. Mm-hmm. Ce ministère-là doit faire ce travail de la moralisation de la population, mais quand ce ministère est maintenant utilisé pour autre chose, pour une propagande au lieu de la moralisation populaire, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a à avoir que des citoyens qui ont les instruments. Et moi, je peux appeler dans notre jargon, chez nous les techniciens, les instruments de mesure tripotés qui n'ont pas été standardisés. Alors, ils utilisent mal les instruments. Quelqu'un qui pèse 20 kilos et vous montez sur une balance, et ça vous montre 15 kilos ou bien ça vous montre 45 kilos. Voilà un peu, c'est ça. Donc, il faut moraliser la personne humaine et ensuite et conscientiser dans un esprit nationaliste et patriotique. Et là, je crois qu'on peut avoir le premier pas pour une bonne justice en cette nation.
Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé. Godefroy, vous êtes à Ouvira. Bonjour, Godefroy.
Bonjour, J.R. Moi, je ne suis pas juriste, je suis psychologue. Hein. Mmh. Mais avant que je n'aborde ça, je voudrais dire que Maître Bondo, il va falloir qu'il se départe des politiciens, des juristes qu'il est, parce qu'il ne peut pas dire la majorité, tout ça, que ces gens siègent à la majorité. Il a tendance à trop parler de la majorité, comme si on était dans une émission politique. On est dans une émission tout à fait technique. Je pense qu'il faut qu'il essaie de s'écarter de ça. Alors, je suis psychologue, je me dis, la nature a horreur du vide. Il va falloir que les hauts conseils de la magistrature puissent mettre un mécanisme de suivi des magistrats. C'est lui qui va à côté, qu'on puisse les sanctionner, c'est tout. Je pense qu'on ne peut pas évoquer le fait que notre mentalité congolaise n'est pas différente des autres mentalités. Nous pouvons vivre dans les désordres même pendant 100 ans, mais si on essaie de punir celui qui commet la faute, je pense que les choses vont changer. C'est là où résident les choses. Il faut la loi, que la loi soit appliquée. Un magistrat qui n'a pas bien comment dirais-je, qui n'a pas bien travaillé, qui soit poursuivi et sanctionné. C'est tout ce que je peux donner comme...
Oui, Godefroy, il y a quand même dans ce rapport hein, où il est dit qu'il faudrait consolider le cadre juridique de l'état de droit qui passe par l'adaptation des lois nationales aux engagements internationaux. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus?
Moi, je pense qu'au Congo, moi-même, j'ai été député de la transition. Nous avons signé plusieurs... nous avons adopté plusieurs... lois qui internationales qu'on a mis dans notre arsenal juridique. Je ne vois pas ces reproches est vrai, je ne pense pas. Je pense que l'adapter, oui, s'il y a à corriger, s'il y a des choses qu'il faut adapter, il faut le faire, mais il n'y a pas. Pour les Congo, je pense qu'il n'y a pas assez de problèmes.
Merci beaucoup, Godefroy. Nous prenons Désiré qui est à Colosi. Désiré, bonjour.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et ceux qui me suivent, plus précisément à Kassanji, chef des districts de Rabat.
Vous avez la parole, Désiré.
Oui, en tout cas, j'épouse l'idée ou bien les arguments de notre invité. C'est-à-dire, la justice aujourd'hui travaille, on dirait, à la merci des autorités politiques. Pourquoi nous l'avons constaté aux élections de 2011, avant quelques jours, n'est-ce pas, des tenues de dites d'élection présidentielle, voulais-je dire.
Oui, Désiré,
on a changé le magistrat à la Cour suprême.
S'il vous plaît, Désiré, si on peut s'écouter. Parce que là, nous sommes déjà au niveau de recommandations. Les rapports, l'état des lieux, ça c'est connu de tous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour arriver à rendre effective la primauté de l'état de droit? Nous avons dit, quelque part, on a proposé à ce qu'on puisse adapter les lois nationales aux engagements internationaux. Est-ce que vous épousez cet avis?
Ah, il faut que les autorités laissent travailler, n'est-ce pas, ces pouvoirs aussi libres. C'est un pouvoir autonome, donc comme les pouvoirs législatifs, exécutifs. Ah, mais il ne faut pas que lorsqu'ils les nomment, qu'ils les contraignent encore. Mais vous devez travailler ainsi. Non, ils doivent le laisser.
Voilà, on va prendre Crispin qui est à Kisangani. Crispin, bonjour.
Oui, bonjour, journaliste, et bonjour à tous les autres.
Voilà, Crispin, aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous nous proposez pour rendre effective la primauté de l'état de droit?
Ok, comme recommandation, je crois avant d'y arriver, ça m'énerve des fois quand on doit sanctionner, révoquer un magistrat, en fait, qui, dans son impartialité, n'avait fait que sauver un politicien, un homme politique. Alors, comme recommandation, moi, je peux dire, le vrai signal, le signal fort ne pourra que venir d'une seule personne. Et c'est le seul chef de l'État. C'est lui seul qui peut, pour donner le signal fort, d'abord commencer livrer à la justice ces grands hommes forts qui sont tout autour de lui, qui sont connus dans différents rapports cités, ça et là, qui n'ont jamais été inquiétés. Voilà ce qui montre encore que le signal fort ne pourra pas venir aussi longtemps qu'il faudra se protéger.
Voilà, vous serez très mal, Crispin. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible à Londres, parce que là, par souci des auditeurs hein, qui n'écoutent pas ce que vous êtes en train de nous dire. 081-890-6315.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous revenons à vous, hein, Maître Bondo. Nous avons posé la question tout à l'heure à un auditeur sur cette recommandation de l'OCISA qui parle de la consolidation du cadre juridique qui passe par l'adaptation des lois nationales aux engagements internationaux. Comment vous commentez ça?
Tout ça c'est bien beau. Mais pour qu'on y arrive, il y a des intervenants qui a parlé de la volonté politique. lorsque les dirigeants cultivent ce qu'on appelle l'esprit État, disons ce que moi j'appelle, c'est ma doctrine, je suis en train d'écrire là-dessus, ma théorie de l'esprit État, c'est-à-dire l'État étant au-dessus de nous tous. Est-ce que ce que je pose comme acte s'inscrit-il dans le respect des lois de la République? Est-ce que je ne commets pas d'abus de par mon autorité? Est-ce que je ne commets pas un excès de pouvoir en prenant telle orientation, telle décision? Dès que les autorités, tant judiciaires que politiques, cultivent cet esprit État, l'État de droit est d'office consolidé. Et c'est pour cela que, à part cette recommandation de la culture de l'esprit État, il y a un autre ou une autre recommandation. C'est que le magistrat, qu'il soit du parquet ou du siège, retienne que le fait pour lui d'être nommé, c'est pour qu'il remplisse simplement son devoir. Et là, c'est une recommandation divine. Pourquoi? Parce que nous qui sommes chrétiens, chez Jean 17, il y a la parabole du serviteur inutile. Jésus-Christ parlant à ses disciples, il dit, vous n'avez qu'à faire votre devoir. Et lorsque vous l'aurez rempli, n'attendez pas de récompense que d'avoir fait ce que vous devriez faire. C'est ça le serviteur inutile. Lorsque le magistrat a en face de lui un homme puissant et un autre moins puissant ou faible, si c'est le faible qui doit gagner, qui par rapport aux lois a raison, c'est celui-là qui doit gagner. Mais si le puissant a par rapport aux lois de la République raison, c'est celui-là qui doit gagner. C'est ça l'état de droit. Et cette justice-là, nous l'appelons équitable. Lorsque le juge est mis dans l'état psychologique tel que ayant bien dit le droit en faveur du faible, c'est lui qui l'a nommé. C'est que le juge est inamovible. Il ne peut pas le bouger. Il est sécurisé. Et lorsqu'un magistrat, pourquoi nous faisons les lois de la République? Il faut que ces lois soient appliquées. Alors, je vous donne un exemple.
Maître le bâtonnier Jean Bouilloux nous a rejoint quand même au cours de ces débats. On peut lui accorder la parole rapidement. Bonjour, le bâtonnier.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, merci, cher ami. Je pense que l'intervenant vient de rectifier positivement son intervention parce que je voudrais, sur la question de la corruption, insister sur la qualité morale de la personne qui est corrompue. C'est là qu'il faut plus insister plutôt que sur les interférences de l'exécutif sur le judiciaire. Ce que j'ai expérimenté pour parce que je suis avocat depuis une vingtaine d'années et ancien bâtonnier, c'est que chaque fois qu'un magistrat a subi une pression et que il s'arrête et vous dit voilà, la vérité de l'affaire c'est la suivante, il n'y a personne, qu'il soit politicien ou qu'il soit juriste ou qu'il soit sociologue, qui va lui faire pression. Et tous les bons magistrats, chaque fois qu'ils étaient devant la pression et qu'ils vous ont donné une partie de l'information de ce qu'il y a réellement, automatiquement, tu t'es arrêté, tu t'arrêtes, tu te dis non, je ne peux pas enfreindre la justice. Et je pense que la conscience du magistrat est une chose bien plus essentielle que le fait qu'il y ait une pression, que ce soit de l'exécutif, que ce soit de sa hiérarchie. Et même, il y a eu des cas où vous voyez un magistrat pour un dossier, il vous dit que ma hiérarchie m'a dicté telle position, mais moi je pense que ce n'est pas possible, je vais garder telle position, et vous le respectez. Donc il y a une phase très importante, et même incontournable, de la moralité du magistrat lui-même, de ses convictions personnelles, sur laquelle il faut insister. Et les bons magistrats, il y en a dans ce pays, qui refusent la corruption pour la raison du droit. Et il faut le rappeler, et il faut le dire. Je crois qu'on a parfois, on insiste parfois plus sur le fait que des magistrats sont corrompus, et ils subissent la pression, mais il y en a qui résistent et qui disent le droit. Et la conscience du magistrat, c'est là le cœur de l'indépendance. Oui. Lorsque un magistrat en a mis conscience devant une affaire, il prend une position. Ça, c'est sur ça qu'il faut l'amener. Ça peut être par des principes moraux, religieux, ou par d'autres considérations légales, mais il faut insister sur ce seul à seul du magistrat face à une affaire, face à sa conscience. Et chaque fois qu'un magistrat l'a fait, il l'a dit, eh bien, on a respecté sa prise de position.
Merci beaucoup,
voilà ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup d'avoir contribué à ce débat. Nous prenons Claude Mbujimayi et puis on va revenir à notre invité. Claude, vous êtes Mbujimayi, bonjour.
Oui, j'appelle depuis Mbujimayi.
Vous avez la parole, Claude.
Merci beaucoup, Gérard. Personnellement, je voulais juste apporter une petite contribution par rapport au sujet.
Oui, allez-y.
Vous savez, la liberté, en fait, la magistrature, c'est un problème beaucoup plus délicat. C'est un problème qui, si on ne fait pas beaucoup plus attention, nous allons tomber dans des histoires qu'on ne saura pas peut-être demain, après-demain, nous retrouver. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a d'abord insuffisance des magistrats sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ici à Mbujimayi, il y a de ces tribunaux de grande instance où le juge, il n'y a pas assez de juges. Il y a deux juges et un magistrat du parquet intervient pour siéger à trois, comme ce sont des tribunaux qui siègent à trois juges. Donc il y a même de ce coin du territoire, de différents territoires qui composent la province du Kasaï-Oriental, où il n'y a même pas de magistrats. Donc maintenant, actuellement, ce sont les officiers, les OPJ, qui jugent, qui tranchent des problèmes, qui fixent des dommages et même des peines. Alors que selon la loi, on reconnaît à un OPJ 5 jours pour traiter un dossier. Ou je crois, après, il doit transférer le dossier au président. Mais si, d'abord, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunal, il y a même de ce coin du territoire, de certains territoires, où on a affecté des magistrats, mais ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas y aller, ils veulent rester en ville, dans de grandes villes, en train d'évacuer leurs occupations. D'abord, le ministère de la Justice doit être beaucoup plus ferme par rapport à certains, à ce point de vue. Ils ne sont pas prêts pour travailler.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claude. On va terminer cette deuxième série des auditeurs avec vous, Kabongo. Vous êtes à Kinshasa. Confiance Kabongo, bonjour.
Bonjour, Mbote Djambo, à tous les okapistes de la Radio de la Paix.
Vous avez la parole rapidement, Kabongo.
En fait, je voudrais bien revenir sur la vraie volonté politique. Moi, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit, il n'y a pas assez une grande volonté politique. Les autorités que nous avons ne font recours qu'à la justice lorsque celle-ci est en leur faveur. Moi, je pense, personnellement, qu'il est nécessaire que nous passions par un changement. Il faut qu'il y ait un changement radical du système. Le système dans lequel nous sommes en train d'évoluer ne permettra pas à ce que la justice soit égale pour tout le monde. Parce que le système en lui-même, il est corrompu. Donc il faut nécessairement un changement radical, comme je le dis. Et peut-être ce changement ne peut venir qu'avec une alternance. Donc sans alternance, nous n'aurons jamais des gens qui pourront appliquer tout ce qu'on se dit. Il se pose un problème sur l'applicabilité de tout ce que nous sommes. C'est pas en matière de loi, nous sommes un pays qui a beaucoup de choses. Je reviendrai à ce que vous avez dit, ce qui concerne le rapprochement des lois du pays avec certaines...
Les instruments internationaux.
Pardon?
Avec les engagements internationaux.
Exactement. Je pense que dans ce stade-là, le gouvernement congolais en a fait déjà beaucoup. Mais il se pose un problème de personnes, les animateurs, les gens qui peuvent faire en sorte que cette justice-là soit réelle. Hein, nous avons beaucoup d'exemples qui ont montré sur toute la ligne que les animateurs n'ont pas cette volonté-là. Je pense qu'il y a un auditeur qui a dit que l'exemple, le tic doit venir d'en haut. Il faudrait que le garant de la nation lui-même donne le feu vert. Quand il faut parler de l'impunité, quand il faut parler de la tolérance zéro, quand il faut parler de tout ça, il faudrait que ces choses-là soient réellement visibles. Il n'y a pas d'impact visible dans ce que les gens disent. On le dit, mais quelques mois après, il n'y a plus rien. C'est parce que ceux qui commettent des forfaits sont dans le camp de ceux qui dirigent. Il est difficile. Donc il faut nécessairement passer par l'alternance. Et
voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kabongo. Nous prenons les internautes, hein, les amis qui nous ont écrit par rapport à ce sujet. Il y a Gilbert Kalumuna qui dit « Je pense que notre justice souffre de beaucoup de maladies, outre les antivaleurs qui rongent ce secteur à l'instar de la corruption, du monnayage, du népotisme. Il y a une carence en personnel judiciaire, car la plupart des tripés TGI fonctionnent au ralenti. L'exemple du tripé de Congolo qui vient de faire 5 mois sans tenir une audience, faute de magistrats, en nombre insuffisant pour une composition régulière. Il faut tenir les états généraux de la justice afin de dégager des solutions comme les causes sont déjà connues. » Arafat Tchamouta dit « Pour ma part, le grand problème au Congo, c'est un problème de salaire et l'émission de l'exécutif dans l'appareil judiciaire congolais. » Justin Ngakwiraki, depuis Butembo, dit « J'estime que l'administration de la justice congolaise doit renforcer les contrôles techniques très sérieux du personnel et agents, car la justice élève une nation et c'est très capital. » Benoît Poy, il y a un sérieux problème de l'administration de la justice congolaise. Je suis d'avis que le renforcement de l'autonomie de la justice serait aussi importante. Rendre disponibles des moyens conséquents, salaire, logement, transport, soins de santé pour les agents, donc huissiers, greffiers, magistrats, et ça serait aussi une bonne solution. Bon Fayel Bonaventure dit ceci, au lieu de renforcer l'autonomie du pouvoir judiciaire, il serait peut-être important de créer un autre organe ou un autre pouvoir plus supérieur au judiciaire. Comment vous réagissez, Maître Boldo?
Non. Il n'y a pas de pouvoir supérieur au judiciaire. Tous les pouvoirs sont sur le même pied d'égalité. Mais il y a un problème, c'est le complexe que c'est l'exécutif qui nomme les magistrats, qui fait que les magistrats se sentent redevables vis-à-vis de l'autorité exécutive. Et là, nous disons aux magistrats que si vous êtes nommé, c'est parce que la Constitution dit que c'est elle qui doit vous nommer. Il a fait son devoir. Vous lui devez que respect, autant que lui vous donne aussi respect. Parce que, prenons par exemple le président de la République. Il prête serment devant ces mêmes magistrats qu'il nomme. Les magistrats aussi doivent respect au président, parce que c'est lui au moins, sans sa signature, il ne peut pas prester. Mais l'atout qu'ont les magistrats, c'est leur serment. Parce que ce serment, c'est un serment promissoire. Je leur recommande, parce qu'ils le côtoient, je leur recommande Maître Nicolas Tchamala, qui a écrit un livre sur la portée du serment, le sens du serment. Il faut que les magistrats, pour exercer leurs fonctions, ils prêtent serment, il faut qu'ils lisent ce serment, qu'ils l'intériorisent, qu'ils sachent...
Que dit le serment?
C'est le serment de ne se soumettre qu'à l'autorité, pratiquement, je résume, de ne se soumettre qu'à l'autorité de la loi. Et la loi dit, vous devez vous comporter comme ceci, comme cela. C'est dans ces marges-là, avec ce que le bâtonnier Mbuyu a appelé la conscience. Est-ce que le premier juge qui se trouve être ma conscience, et le philosophe Kant le dit, Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, il n'y a que deux choses qui l'émerveillent, le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la conscience au-dedans de nous. C'est cette conscience qui est notre premier juge. Nous sommes juges magistrats, mais nous avons un autre juge, le tout premier, c'est notre conscience. Est-ce que, en disant que X perd le procès par rapport à Y, est-ce que ma conscience est tranquille? Dès qu'ils ont intériorisé ça, même la collectivité au nom de laquelle ils rendent service, parce que la justice est rendue au nom du peuple, cette collectivité que nous appelons le peuple congolais, la nation congolaise, sera reconnaissante. vis-à-vis des magistrats. Mais il y a aussi un problème. Un auditeur, disons un intervenant l'a dit, il n'y a pas de vertu lorsqu'on n'est pas à l'abri du besoin. Il faut que les autorités sachent que les magistrats ont les mêmes besoins qu'elles, les autorités, et qu'il faut que ces besoins soient satisfaits. Vous vous imaginez, par exemple, que nous, à Avocats sans frontières, pour ces, si les concertations nous donnaient l'occasion, nous aurions proposé, par exemple, que pour aider la magistrature, il faut que notre gouvernement coopère avec la Belgique et la France pour que certains magistrats à la retraite dans ce pays viennent même pour un mandat de 5 ans ou de 3 ans essayer de relever la magistrature. Pourquoi ? Parce que la toxine botulique la plus dangereuse dans notre pays, c'est la corruption. Et cette corruption, elle n'est pas nécessairement pécuniaire. C'est cette corruption par l'effet du trafic d'influence.
Parce qu'il y a plusieurs contraintes.
Oui, les contraintes sous lesquelles ploient les magistrats. Lorsque un magistrat sait qu'il a affaire à JR...
Voilà, Maître Bond, on va aider les auditeurs qui sont en ligne, ils attendaient, ils sont impatients. Félicien qui est en Boujmaï et Doha Akin, et puis on revient à vous pour la conclusion. Félicien, vous êtes en Boujmaï, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, vous avez juste 40 secondes parce que le temps nous fait défaut.
En tout cas, merci beaucoup. Je pense que dans tout ce qu'on vient de parler, moi, je trouve qu'il y a seulement la volonté et la conscience professionnelle. Vous savez, il y a quelque part où la loi reste muette, les juges judiciaires vont faire recours aux jurisprudences. C'est pour rendre la justice juste et chercher quand même d'améliorer le travail. Et à cela, comme nous avons les trois pouvoirs sont égaux. À ce moment-là, moi, je ne vois pas qu'on ne peut jamais intimider la justice. Si la volonté est là, quelqu'un peut exercer ses fonctions sans problème. Sans problème. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup,
Félicien. Je vois là où on part, on monte, on descend.
Voilà.
Tout ce qu'on a dit est réel, c'est bien.
On va prendre aussi les noms rapidement. Merci beaucoup, Félicien. Edo, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour,
Oui, rapidement, en 30 secondes, votre point de vue.
Ok. À ce sujet, j'ai épinglé juste trois jalons. Le premier, c'est par rapport à l'indépendance du pouvoir judiciaire, par rapport aux deux autres composantes du pouvoir dans notre pays. À ce niveau-là, je me réfère sur quoi? Le pouvoir exécutif et législatif doivent laisser le pouvoir judiciaire jouir de son droit, de sa prérogative pour laquelle il a été créé. En plus, le deuxième jalon, c'est par rapport au rempart contre l'arbitraire du juge. Donc, à mon niveau, il ne convient pas que les juges seuls soient là à décider de la punissabilité des faits. Cela serait susceptible de créer des dangers. Les juges, d'abord, loin de faire prédominer les exigences de justice et de vérité, ils risquent donc de soumettre sa démarche à son émotion, à son tempérament, à ses intérêts et voire à son zèle. Donc, l'incertitude quant à cette façon de juger dira en définitive le droit et la nature à créer l'insécurité juridique au sein de la population. En plus, pour finir, le troisième rempart, c'est par rapport aux ONG des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons ici à Kinshasa? Aujourd'hui, le système, le phénomène Kuluna bat son plein, M. JR. Et on n'arrive pas à incriminer ces Kuluna-là parce qu'ils sont des humains. Mais ceux-là qui sont des victimes,
on tue quelqu'un. Voilà, Edo, dommage, on ne saura pas vous laisser évoluer parce que le temps nous fait défaut. On va conclure avec notre invité parce que, et puis on va se quitter d'un moment à l'autre. Chabondo, Maître Richard, en conclusion aujourd'hui, c'est vrai par rapport à ce rapport, aussi ça, c'est vrai aussi, ça est revenu encore sur l'état des lieux. L'état des lieux de notre secteur de la justice est connu, hein, parce qu'on ne peut même pas revenir. Mais quelles sont, au fait, les pistes de solutions concrètes pour qu'on arrive à
remarquer? Les pistes de solutions, là, c'est là que je diverge avec le bâtonnier. Pourquoi un juge qui a pris une décision, on va le voir pour qu'il se justifie? Le bâtonnier a avoué ici qu'effectivement il y a des pressions. Parce qu'un juge a rendu une décision, il dit voici, si j'ai pris cette position, c'est parce que. Pourquoi doit-il se justifier? Or, un juge, quand il a rendu une sentence, il est même dessaisi. Pourquoi aller le voir après? pour l'interroger. C'est là qu'on cultive la
donc,
peur.
Donc si je comprends bien, vous appelez le magistrat à la conscience.
À la conscience.
Et avoir aussi la volonté de voir, c'est quand même les choses, rendre effective la primauté de l'état de droit.
La primauté de l'état de droit est une affaire liée et aux magistrats et aux politiques. Les politiques doivent respecter la magistrature.
Les mêmes efforts pour arriver à trouver...
Alors, et puis au niveau des magistrats eux-mêmes, il faut éviter le clientélisme. Parce que les autorités supérieures du Conseil supérieur de la magistrature doivent respecter la procédure disciplinaire où on doit d'abord juger un magistrat au niveau de la chambre provinciale de discipline et au degré d'appel à la chambre nationale disciplinaire avant de proposer soit sa révocation, soit sa promotion auprès du président de la République.
Merci beaucoup.
Si on respecte la procédure, il n'y aura pas de problème, mais la corruption... Et à plusieurs formes. Il n'y a pas que la corruption pécuniaire, il y a la corruption au niveau des contraintes, et c'est psychologique, c'est mental.
Merci beaucoup Richard Bondo, vous êtes avocat conseiller à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Vous êtes également président d'Avocats sans frontières en RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir fait les déplacements de ce studio. À très bientôt.
Merci, à la prochaine.
Voilà, nous disons également merci à Jean-Noël Mokondo ainsi qu'à Nadine Foula qui ont réalisé cette émission aux côtés de Pierrot et la Mégie. Cette émission a été présentée par J.R. Lugembo sous la supervision de Nicole Gacardo. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.